parole à notre dernier intervenant de la matinée, donc, qui va nous présenter dans le cadre du pôle de compétitivité à vocation mondiale e-trans, alors je ne sais jamais si c'est transport intelligent ou transport innovant, justement quelques innovations technologiques dans une perspective de recherche-développement qui peuvent favoriser l'existence de réseaux de transport durable.
Bonjour, je m'appelle Damien Barat, donc je suis à la fois transport intelligent et transport innovant. C'est un peu les deux. Je suis coordinateur de projet pour le pôle de compétitivité e-trans. Je suis basé à l'UTC en face au centre de recherche, au service de la recherche, si vous me cherchez un jour. Donc je vais vous présenter quelques slides sur le pôle de compétitivité, sur des projets qui sont en cours, sur e-trans à l'UTC, puis on pourra échanger par la suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est un regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'organismes, de centres de recherche et d'établissements d'enseignement supérieur qui ont vocation à travailler ensemble pour faire de magnifiques projets d'innovation. Pour ce qui nous concerne, c'est dans le domaine des transports terrestres innovants. Le but étant d'avoir un avantage concurrentiel avec l'innovation pour créer de la compétitivité sur le territoire, de l'attractivité, donc attirer des investisseurs étrangers aussi, donc avoir une compétence forte, pouvoir l'exporter et attirer en se basant sur cette compétence forte. L'ambition du pôle e-trans, c'est construire le premier pôle européen pour la conception, la construction, l'exploitation compétitive et la maintenance des systèmes de transport innovants, systèmes de transport terrestre. En termes de part de marché, d'innovation, de croissance et d'attractivité. Le positionnement stratégique du pôle e-trans se fait autour des 4 I qui sont l'intermodalité, l'interopérabilité, l'intelligence et l'innovation. Donc c'est le I de e-trans et le trans c'est pour transport, vous l'aurez compris. L'intermodalité c'est la mise en synergie des différents modes de transport, donc passer d'un mode de transport à l'autre. L'interopérabilité, c'est rendre possible ce passage en rendant compatibles les différents systèmes utilisés. L'intelligence, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les transports. Et l'innovation, c'est passer de l'idée au succès commercial, puisque la découverte magnifique reste sur l'étagère, on a un petit peu perdu son temps et son argent. Les axes stratégiques du pôle sont les suivants, ils sont de 6. Voici les 3 premiers. Donc c'est se positionner en modèle européen pour l'interopérabilité et l'intermodalité dont on vient de parler. Se doter d'un centre d'essai ferroviaire, puisque le centre, le barycentre au niveau des intérêts du pôle, c'est quand même le ferroviaire. Mobiliser, renforcer nos compétences fortes sur la sécurité, la communication, les systèmes intelligents. Donc voici les trois suivants. Développer une formation supérieure de haut niveau. On a eu récemment un master spécialisé dans le domaine du ferroviaire qui a été accrédité. Répondre aux défis des managements des connaissances expertes. En fait, en ce moment, il y a pas mal de gens qui partent en retraite. Ces gens ont des connaissances, un savoir-faire. L'idée, c'est de capitaliser ces connaissances pour pouvoir les utiliser et surtout ne pas les perdre. Développer une visibilité mondiale de premier rang par des événements en région, des salons, des congrès. En 2007, on avait le salon CIFER, qui est un salon du ferroviaire qui avait lieu à Lille. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Donc, si vous voulez, en 2012, il y aura également lieu. Les filières industrielles concernées sont donc le ferroviaire, pour tout ce qui est construction de matériel, infrastructure, services, exploitation, maintenance. L'automobile, principalement, les équipementiers, et pour 2 thèmes qui sont la sécurité et la vibroacoustique. Ces 2 thèmes qui sont assez présents dans les laboratoires de l'UTC, notamment. Les autres filières sont le maritime, fluvial et logistique, et puis les fameuses TIC. Donc quelques ordres de grandeur. En Picardie, Nord-Pas-de-Calais, l'industrie ferroviaire représente 10 000 emplois, soit 40% de la production nationale. C'est la première région française. Pour ce qui concerne l'automobile, on a environ 70 000 emplois qui sont liés à l'automobile dans les deux régions. 30% de la production nationale, deuxième région française. Pour la logistique, c'est 71 000 emplois. Et c'est la deuxième région française. Je ne sais rien pour le pourcentage. Les thèmes scientifiques et technologiques sont les suivants. Donc, tout ce qui est matériaux, structure des véhicules, sécurité, informatique embarquée, acoustique et vibration, économie d'énergie et développement durable. Je n'ai pas mis spécialement pour aujourd'hui. Et puis la logistique. Les principaux acteurs du pôle sont les suivants. Donc il y a des industriels, des laboratoires, des centres de ressources. Au niveau des industriels, on retrouve ici des industriels du ferroviaire. Ici, on est plutôt sur des industriels de l'automobile. Mais aussi, on a aussi des logisticiens et puis des entreprises du TIC. On retrouve ici, sans doute, quelque part, ce serait bien, du TIC. La stratégie internationale du pôle, c'est cinq points-là. Une visibilité internationale, donc en se basant sur des compétences fortes en région, sur les thèmes dont je viens de parler, en le faisant savoir, en développant les membres du pôle à l'international, en leur faisant participer à des salons, en leur améliorant leur réseau de contact avec d'autres laboratoires ou d'autres industriels étrangers, en faisant des partenariats de cluster à cluster, en développant des formations internationales et en essayant d'attirer avec tout ça des investisseurs internationaux. L'organisation du Polytrans est faite autour de sept comités de programme qui représentent sept axes du pôle. Donc formation recherche qui sont un petit peu à part et qui sont, on va dire, transversaux. Ces cinq axes sont plutôt des axes plus techniques, donc interopérabilité ferroviaire, sécurité acoustique des équipements embarqués, intermodalité fret, information multimodale et transport guidé urbain. On aide les différents acteurs à monter différents projets, des projets d'innovation qui vont déboucher dans les 3 à 5 ans à un produit ou un service innovant, des projets de recherche qui sont là pour développer des briques technologiques qui pourront par la suite être utilisées dans les projets d'innovation. Donc les projets d'innovation sont plus portés par des industriels et les projets de recherche plus par des laboratoires. On a également des projets de formation, des projets d'accompagnement. Les projets de formation, en fait, c'est construire un parcours sans trop de doublons et puis le plus complet possible sur les deux régions, sur des thématiques de transport. Et puis les projets d'accompagnement, c'est des centres d'essai mutualisés, donc un banc d'essai qui peut servir à plusieurs labos, plusieurs industriels, et puis des zones d'attractivité qui sont économiquement intéressantes. Alors quelques chiffres sur l'état actuel. On a monté une trentaine de projets d'innovation. Ça représente un budget de 74 millions d'euros. 9 projets de recherche. On a 63 acteurs mobilisés. 39 entreprises, 25 PME et 24 laboratoires. Pour l'instant, sur les 30 projets, il y en a 19 de financés. Ce chiffre-là ne doit pas être à jour parce qu'il me semble qu'il y en a un peu plus maintenant. 2 projets d'accompagnement et 1 projet global de formation. Donc, je vais vous parler un peu des projets et puis comment ces innovations peuvent conduire à des transports multimodaux durables. Donc on a quelques axes ici identifiés. La réduction de consommation d'énergie, la réduction de production de polluants, la réduction des nuisances, le renforcement de la sécurité des personnes, l'accroissement de la durabilité des infrastructures et la transversalité. Enfin, Ça, j'ai pas bien compris ce que c'était, c'est pas moi qui ai fait la présentation. La réduction de la consommation d'énergie, tout d'abord. On a par exemple un projet qui s'appelle Ultimat. L'idée, c'est de développer des nouveaux matériaux qui permettent d'alléger les structures des voitures de train. L'objectif est de réduire la masse de 20%. C'est un projet qui est piloté par Alstom. Toujours sur la réduction de la consommation d'énergie, on a un projet qui s'appelle Textherm. Donc là, c'est le développement de barrières thermiques non métalliques. On est encore dans une idée d'allègement du wagon. Et puis le projet C2F également. Le projet WFIF, lui, est là pour aider au passage de la route vers le rail. Donc c'est un nouveau wagon interopérable pour favoriser le transfert modal. Le projet DOTRAS, c'est favoriser la comodalité par la traçabilité. Donc c'est réduire tout ce qui est barrière en ce qui concerne le transfert des données, parce que ce qui prend pas mal de temps pour passer d'un mode de transport à un autre, c'est toutes les lenteurs administratives. Donc si on dématérialise tous les documents et qu'on favorise les flux et qu'on a un workflow efficace, on a une intermodalité qui est plus sexy, qui est plus rentable, qui est plus rapide, et donc c'est on a plus envie de faire appel à l'intermodalité pour transporter ces marchandises. On a également deux projets là sur la réduction des nuisances électromagnétiques et vibro-acoustiques. Donc c'est des idées, c'est dans l'idée d'améliorer le confort du passager. On a aussi des projets qui portent sur l'accroissement de la durabilité de l'infrastructure ferroviaire. Donc ici c'est des nouvelles caténaires, une nouvelle voie non ballastée, donc c'est une voie en béton. Alors ces deux, les projets là et là sont assez complémentaires. Je ne sais pas ce que celui-ci apporte par rapport à celui-ci, c'est pas moi qui le suis. Par contre, ici je pourrais rajouter un autre projet qui s'appelle InnoCap. C'est un projet qui est piloté par Carbone Lorraine, qui est établi à Amiens. L'idée c'est d'avoir une bande de captage de courant. La bande de captage, en fait, c'est ce qu'il y a sur le pantographe. Le pantographe, c'est ce qui permet de capter le courant qui se lève et qui se descend sur les trains. Les bandes de captage sont actuellement pas mal métalliques. L'idée, c'est d'utiliser du carbone pour favoriser le contact, qui est un contact glissant, et permettre de moins user la caténaire. On a des projets qui porte aussi sur la sécurité des personnes, alors soit dans le milieu ferroviaire comme le projet Procab, où l'idée c'est d'améliorer la sécurité dans la cabine de conduite pour le conducteur, ou des projets comme B4S, où l'idée est d'utiliser des éléments de design intérieur qui sont pour l'instant inertes pour afficher des messages aux conducteurs. C'est par exemple faire virer la planche de bord au rouge si le conducteur enfreint le code de la route de manière assez grave. L'idée aussi c'est d'améliorer l'attractivité des transports en commun. Le projet Viatic Mobilité est dans cette optique. L'idée, c'est de proposer des services aux voyageurs, des services à la fois de transport et des services d'agrément. Donc des services de transport, c'est savoir quand est-ce que passent les différents transports que je vais utiliser, pouvoir préparer mon voyage à l'avance, éventuellement, si j'ai envie de modifier mon trajet, pouvoir le faire facilement. On a tous un téléphone portable dans la poche, l'idée c'est d'utiliser ce terminal pour pouvoir avoir accès à ces services. Le modèle économique, il n'est pas forcément encore bien calé. Et puis l'idée c'est d'avoir le bon service au bon endroit, au bon moment, pour rendre les services, les transports vraiment attractifs et de favoriser l'utilisation massive de transports en commun. Donc la petite illustration ici
donc le voyageur qui part de chez lui, qui va utiliser un mode de transport, qui va par exemple au travail ou à l'université. Donc il a différents états dans la journée et différents statuts. Et donc cette petite illustration reprend les différents états qu'il peut avoir dans le train, par exemple. Il y a deux critères, un critère d'ouverture et un critère de tension. Donc on est soit tendu, soit détendu, soit on est fermé, soit on est ouvert. Donc c'est les quatre typologies de voyageurs identifiés. On a la personne qui travaille, qui est tendue et fermée. La personne qui profite pour faire un petit somme et qui est fermée et détendue. La personne qui est en recherche d'informations et qui va essayer de scouter partout pour trouver l'information qui l'intéresse, elle est tendue et ouverte. Et puis on a celui
qui fait un peu le cacou sur la plateforme entre deux trains et qui fait le pan en fait et donc qui est ouvert et détendu et qui parle très fort.
Voici les fameuses contributions transversales que j'avais oublié tout à l'heure. Donc c'est le projet de centre d'essai ferroviaire,
le master spécialisé dont je vous ai parlé.
Et puis en ce moment, il y a un master système intelligent pour les transports qui est en cours de création et qui s'ouvrira en septembre 2008.
Donc iTrans à l'UTC. Les thématiques de l'UTC qui s'inscrivent dans le cadre d'iTrans sont c'est principalement les deux laboratoires indiqués ici, Eudiasic et Robert Val. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous avez connaissé les laboratoires de l'université. Non.
Donc Eudiasic, c'est l'un des plus gros labos, enfin c'est les deux plus gros labos de l'UTC. En termes de nombre de personnes. Eudiasic travaille sur la coopération machine, les systèmes de sécurité et de sûreté, sur les ITS, la logistique. Le laboratoire Robert Val travaille sur sur l'AGM, sciences et génie des matériaux, sur
l'acoustique.
Et donc ça c'est d'autres laboratoires de l'UTC qui sont pour l'instant pas impliqués dans les projets mais qui pourraient. Il y a le LEG, le COSFEC et Odyssée.
Les projets dans lesquels sont impliqués Eudiasic et Robert Val sont les suivants, donc D4S, Genève, Carmen. Carmen c'est un outil de réalité augmentée qui a été développé pour Continental. Et l'idée, c'est de faire un système de réalité augmentée pour pouvoir faire des formations sur une chaîne de montage, par exemple. City VIP, l'idée, c'est de développer des petits véhicules urbains qui sont des véhicules individuels, mais à comportement collectif, qui peuvent être automatisés. Visa Mover, c'est un projet qui est en cours de montage avec Eudiasic et Siemens. Et donc c'est un projet de système de transport intelligent. C'est pour améliorer la sécurité des systèmes de métro automatique. qui sont des projets matériaux, donc développer de nouveaux matériaux qui vont rendre des systèmes de transport plus légers et donc moins consommateurs d'énergie. Des projets là, c'est plus des projets de libre acoustique, donc l'idée c'est d'améliorer le confort. Le projet Mathiesa, il est peut-être un peu plus dans la thématique de la journée, parce que l'idée c'est de développer le matériau de planche de bord qui a la bonne texture, le bon rendu visuel, qui va permettre d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres technologies. Mais surtout, c'est penser le matériau dans son cycle de vie. Donc c'est utiliser des matériaux facilement recyclables, intégrer des matériaux recyclés aux matériaux de base. C'est pendant la production, utiliser les chutes de production et les réintégrer dans le matériau. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir aussi sur donc d'avoir le bon matériau, mais aussi comment l'intégrer au mieux. Donc le principal argument est sans doute économique, mais il est aussi écologique. Si vous voulez rester informé sur iTrans, le site c'est www.i-trans.org. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute.
Ouais, je voulais savoir c'est quoi les types de matériaux qui sont à l'étude des projets MyBag ultimement.
C'est alors soit des matériaux métalliques ou des alliages, soit des matériaux composites.
Juste dans le CTV.
CTV IP.
C'était, j'ai pas compris, c'était des voitures personnelles.
Ouais, en fait, c'est des voitures avec de l'intelligence embarquée. Donc, c'est des petits véhicules qui peuvent être utilisés individuellement, mais qui peuvent aussi avoir des comportements collectifs, donc se suivre les unes les autres pour fluidifier du trafic, par exemple. Mais c'est pas forcément une bonne idée, comme on le disait tout à l'heure. Non, c'est pas physique en fait, ce sera logiciel.
On en indique sa destination et on regarde les parties communes du trajet et on se sépare au moment où il y a. Et les voitures se suivent comme un train. Et elles peuvent se séparer et aller à des destinations précises qu'on a indiquées individuellement.
C'est les travaux de recherche qui sont.
Et solidarisables. Il n'y a pas de rail.
Matériaux, ce sont bien des matériaux structurels.
Mmh. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir la variété des travaux qui peuvent être envisagés dans le domaine du transport. Enfin, moi, ça m'a ouvert à beaucoup de variétés et que l'UTC a plusieurs points d'impact sur ce repenser le transport en fait, et à tous les niveaux, depuis les matériaux jusqu'à l'intelligence artificielle, il y a des moyens de progresser. Et c'est extrêmement varié.
Moi j'avais beaucoup entendu, parce que les informations, que les transports justement en train et que les transports ferroviaires n'étaient pas spécialement très développés en France, ben, c'est vraiment véridique ou c'est. Parce que.
En fait.
Aussi que les réseaux. Quand,
Pour le transport de marchandises, ce qui pose problème, c'est que d'une part, c'est rentable que si les distances sont très longues. Aux États-Unis, par exemple, ça marche super bien. Le transport de marchandises aux États-Unis est ultra rentable. Il est privé. En France et en Europe, il est bien souvent public et pas très rentable. Mais c'est principalement dû au fait que les systèmes ferroviaires européens ont été construits pour empêcher le passage d'un pays à l'autre facilement, suite aux différentes guerres. Donc, par exemple, il y a une plateforme multimodale à Dourges, en Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a une voie de canal, il y a une voie ferroviaire, il y a des camions qui arrivent. Donc, les caisses des camions peuvent passer soit de la route vers le ferroviaire ou vers le canal assez facilement. Si on prend le train, il y a un train spécial Renault, parce qu'il y a une usine Renault à Douai. Si on prend ce train-là en question, il y a des parties véhicules ou des véhicules Renault qui partent de Douai, qui vont à Valladolid en Espagne, et puis à la frontière, l'écartement des rails n'est pas le même. Donc à la frontière, on enlève toutes les bougies, puis on met les bonnes. Si on avait des systèmes qui marchaient d'un pays à l'autre, on aurait des distances plus grandes, donc un fret plus rentable, donc un fret peut-être plus utilisé. Volontairement.
Volontairement,
mais la réflexion européenne, c'est d'avoir un système unifié, à la fois. C'est des voies spécifiques qui sont faites.
Il faut dire qu'il y a un fiasco complet du ferroutage en France qui a été très très mal organisé et qui a donné un développement du transport en camion absolument gigantesque.
Si vous prenez la 1, n'importe quel jour de la semaine, c'est plein de camions. Quoi.
Ouais. Oui.
Je pense que c'est aussi beaucoup des choix politiques. On a privilégié la route en construisant des autoroutes et en ne donnant pas suffisamment à la SNCF d'aller au moment approprié. Il y a plein de voies qui desservaient des entreprises industrielles qui ont été démontées. Et donc là, les coûts de l'énergie vont faire qu'ils vont s'y intéresser à nouveau, mais ils n'ont plus les routes. Et donc pour moi, c'est vraiment un choix politique qui a été délibéré à un moment donné de dire c'est la route. Si la SNCF aujourd'hui privilégie le transport des personnes et le TGV,
c'est rentable.
C'est pour essayer de rentabiliser mieux, mais c'est vrai que c'est pas bon jusqu'à maintenant pour le transport des marchandises, mais c'est pas la concurrence qui va forcément changer beaucoup les choses. Effectivement, le problème des infrastructures, c'est capital. C'est-à-dire que c'est pas les transporteurs qui peuvent investir avec des voies, ça ne peut être que l'État. Il ne faut pas d'autres possibilités que ce soit un voie d'appel.
Puis il y a tout le fluvial qui est vraiment, quand on sait qu'une péniche transporte 50 camions. C'est vraiment quand même extraordinaire au niveau du gain que ça peut procurer. Et là, il y a une prise de conscience. On essaye de faire des canaux de dimension internationale. Il va y avoir d'ailleurs à Compiègne le passage d'une grande voie maritime. Mais c'est...
Le canal, c'est le Nord.
Hein?
Le canal, c'est le Nord.
Voilà.
C'est un élément, parce que la comparaison avec les États-Unis, ça marche bien aux États-Unis, ça marche pas. En fait, il faut savoir, effectivement, ce qui a été dit par le Médem, c'est en France, on a privilégié le transport voyageur pour le rapport. Il y a eu un démantèlement. Personne ne s'est amusé, à ma connaissance, à faire le bilan global. C'est-à-dire, ce qu'on reporte comme trafic sur les poids lourds sur la chaussée nous permet de gagner des créneaux horaires. Le problème, c'est ça, hein, c'est que le TGV a absorbé tous les créneaux horaires de location des rails chez RFF. Du coup, il ne reste plus d'emplacement. Alors, ce que fait la SNCF, qui est une politique très voyageuse, qui peut être critiquable, hein, faire un bilan de ce chose-là, c'est qu'elle cale les créneaux marchandises à l'intérieur, donc, là, voilà, c'est entre deux trains, disons, de voyageurs, dans un train marchandise. Et les répercussions des retards se font, c'est la priorité des voyageurs, et toutes les répercussions se font sur les marchandises, au point où des fois, il y a des gens qui prennent deux jours, trois jours de retard, parce qu'on a l'accumulation des retards. Pour un voyageur, peut-être, l'accumulation sur un trajet très long, ça sanctionne énormément le transport marchandises sur rail. Et effectivement, là, le vrai enjeu, c'est exactement ce que vous avez dit. Le vrai enjeu, c'est la construction d'infrastructures, en fait. C'est plus la SNCF, c'est RFF, en fait. RFF, aujourd'hui, un déficit d'entretien des rails énorme, déjà, à l'heure actuelle. Et ensuite, donc on est loin, on est très loin de la construction de nouvelles infrastructures. Et l'idée, c'est de multiplier les infrastructures de telle manière à desservir les zones d'activité de fabrication et de distribution. Les enjeux sont contre, le bilan global, moi, je ne le connais pas, en fait. Hein. C'est-à-dire que les voyageurs plus marchandises, il faut voir quand même combien ça fait, parce que aux États-Unis, c'est de l'avion hein, que tu as pour lier les grandes villes.
Il n'y a pas, y a pas de train voyageur aux États-Unis. Il y a une initiative en ce moment dans l'Indiana pour faire un TGV, mais c'est vraiment des marginaux.
Il y a
quelques lignes.
On n'est pas si mauvais que ça, je veux dire, en transport ferroviaire. De France, c'est la plus dense d'Europe en transport ferroviaire. Paris, la ville la plus dense du monde. Etc. Il ne faut pas avoir un regard toujours négatif de ce que je fais en France.
En tout cas, ce qui est intéressant dans ces questions-là, c'est qu'on commence à avoir depuis quelques années le débat sur l'externalisation ou l'internalisation des coûts provoqués. C'est-à-dire qu'un poids lourd ou un bus, parlons du poids lourd, occupe une surface de route, démolit, enfin, use une partie de la route, crée des accidents, et donc tout ça, ça a un coût, et les réflexions au niveau de l'Europe commencent à, enfin, sont assez avancées sur le fait qu'il faudrait qu'on arrive à affecter au transport routier la part qui revient.
C'est un des grands enjeux, comme l'a dit Yann Gilton hier, de la nouvelle économie politique, et notamment écologique, c'est-à-dire internaliser les coûts externes, internaliser dans le calcul économique les coûts externes négatifs, donc la pollution notamment, et d'après Yann Mouliboutan et d'après certains maires notamment, un des deuxièmes défis, c'est valoriser les externalités positives. Là, c'est plus compliqué, mais valoriser la société pollen, c'est-à-dire comment les abeilles, à travers leur activité, pollinisent les champs et donc créent de la richesse et de la valeur. Aussi, ça, c'est la nouvelle écologie politique écologique. Et pas uniquement le fait d'internaliser les pollutions causées. Donc là, on a inversant négatif, valoriser les effets négatifs d'une activité industrielle, et inversant positif, valoriser les effets positifs d'une activité humaine pour la collectivité.
Tu n'avais pas répondu hier sur la proportion. Pardon, ce matin. Sur la proportion de. L'usage de la route qui est lié au camion par rapport aux automobiles.
Je vais sortir les chiffres, mais je les ai pas là.
Moi, j'avais dans la tête, mais c'est peut-être faux, que c'était 20% les camions, le transport de routiers camions. Mais je ne sais pas si c'est.
Alors, je crois qu'il faut voir le chiffre. C'est toujours ce que je dis. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de chiffres déplacements, en fait, c'est-à-dire en nombre de déplacements. Il faut que je revoie les chiffres en nombre de kilomètres. Parce que c'est ça qui a de l'importance en termes d'émissions de CO2, en fait. C'est les kilomètres par camion, en fait. Que le camion, je peux revoir les chiffres et les communiquer dans PowerPoint que je mettrai sur le site du bureau.
Le contrat d'infrastructure routière, ça
ouais, mais c'est important, mais combien?
Oui, ça peut être, je veux dire combien.
Demander aux DDE, ça.
Oui. Non, parce que du coup les camions sont les seuls à détériorer pratiquement
Moi, je pense que, enfin, le résumé de mon intervention de ce matin, j'espère que vous faites attention quand vous dites que c'est les seuls qui font ça, ou c'est les qui font tout ça, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir les ordres de grandeur et de vérifier son info. Dès qu'on a un peu d'intuition là-dessus, il faut vérifier. Le truc, c'est que les camions, c'est les seuls qui usent, j'en sais rien en fait. Mais non, ils usent mille fois, mais quand ça dépend.
Parce que c'est la puissance qu'elle voit les cieux qui.
Oui, bien sûr, mais après, il faut voir combien de camions il y a.
Le dimensionnement routier, il est différent en fonction du trajet.
Comment ?
Le dimensionnement routier et les interventions, il est uniquement calculé en fonction des grandes
populations.
Oui. Sur les grandes
populations, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir.
La seule information que je pense c'est que les DBE, s'ils font encore un calcul d'application des coûts, prennent l'épaisseur de la chaussée et tout ça, ils appellent ça un peu lourd. Par contre, la largeur de la chaussée, il la fait aux automobiles. Parce qu'on n'a pas besoin d'une chaussée.
Non, mais la question, c'était l'usure. Est-ce que la question, c'était quel est le poids de l'usure de la chaussée
Si la chaussée est bien entretenue, c'est les camions, c'est que les camions. C'est une signature de puissance 4 et même plus, donc c'est que les camions.
Non,
mais
pour
rapport.
Je maintiens, il faut voir.
celle qui va présenter ce projet que vous avez présenté tout à l'heure, soit agir sur les fondamentaux, donc l'organisation, quel est ce lien, qu'est-ce que le travail de l'ITRANS fait pour pouvoir justement jouer sur ces fondamentaux et finalement réduire les flux, l'émission de carbone au final.
Sur la localisation d'activités,
alors, il y a des termes précis de ce que vous avez dit,
mais je ne sais pas. Alors,
sur ce point-là, c'est un moyen. Sur la géographie et le transport,
conception innovante et intelligente soit effectivement orientée vers la durabilité. Donc c'est pour ça que je m'étonne effectivement, et c'est pas du tout une critique, bravo, je ne dis plus rien, mais je m'étonne qu'effectivement il n'y ait pas une centralité, une focalisation plus accrue dans le cadre des pôles de compétitivité en général, en France, vers la perspective de la durabilité que ça ne l'est. Parce qu'effectivement les moteurs de la croissance, sans vouloir faire un discours à un ministre de l'économie et des finances en disant que l'avenir de la croissance et de la richesse de demain, c'est la durabilité. Mais il y a une part de vrai. C'est que même si on est économiste de bas étage et qu'on veut la croissance et l'emploi, eh bien, on est bien amené à se préoccuper de la durabilité dans l'innovation et dans la compétitivité. Exemple, là, il y a effectivement une part de marché, une croissance, grosso modo, du bio, qui est relativement forte en taux de croissance, même si en volume absolu, c'est assez marginal. On a une tellement faible compétitivité de l'agro-industrie aujourd'hui en France, en tout cas l'agriculture, qu'on est obligé d'importer ça. Donc la compétitivité de la France en matière d'agriculture, c'est justement faire de l'innovation et de l'intelligence dans ce secteur-là. Alors sinon, on est obligé d'importer des éco-technologies, on est obligé d'importer le savoir qui est fait autre part.
Moi, je trouve qu'il y a en fait de la durabilité dans les propositions, même si elle n'est pas affichée en premier lieu. Typiquement, l'allègement des véhicules, l'augmentation de l'information en faveur du report modal, etc. Ce sont des choses qui vont en faveur des économies d'énergie. Moi, je parle d'économie d'énergie, de réduction des émissions de CO2, pas de durabilité, parce que c'est, à mon avis, un.
Mais c'est pas ça que
je voulais
dire. Je voulais dire que la finalité des pôles de compétitivité, ça n'est pas d'abord le développement durable.
Oui.
Que le développement durable soit un des axes majeurs porteurs aujourd'hui, personne ne peut le contester. Et donc je rejoins tout à fait.
Par contre, moi j'avais une question, est-ce que les thèmes sont imbriqués les uns avec les autres? Je donne un exemple. Typiquement, dans l'allègement des véhicules particuliers, en fait, cet allègement a été quasiment compensé par l'électronique embarquée. Et on se dit, si on allège d'un côté pour augmenter de l'autre, grosso modo, on ne change pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des thématiques qui cherchent à voir l'impact d'une techno sur une thématique adoptée par une autre techno? C'est-à-dire avec les systèmes à l'intérieur même de l'e-trans. Est-ce qu'il y a des recherches?
Super intéressant, je crois que c'est super dur à faire. Tous les projets ont des projets d'innovation, ont un caractère financier assez fort. Et faire communiquer les gens sur une situation qui leur permet de le prendre ou de prendre le marché dans le temps, quand même assez délicat. Donc la synergie, c'est vrai que c'est intéressant, mais pour l'instant, pas possible.
En haut qui dirait attention, vous travaillez sur l'allègement des véhicules. Non, il y a ceux-là, ils sont en train de travailler sur l'allègement des véhicules. Vous ne faites pas des bêtises en alourdissant nos véhicules. Qui est une coordination au moins thématique.
Il y a une direction spécifique.
Voilà.
Et puis, par rapport au développement durable, il faudra aussi intégrer, ils l'ont certainement fait, le problème de la sécurité. Parce que l'AX, issu du développement du véhicule économe de Citroën il y a quelques années, est considéré comme un véhicule qui n'est pas sûr à cause de son poids. Et j'ai fait le groupe qui est complexe, je crois qu'il soit mouillé. Donc tout ça fait un coup assez complexe à gérer, je
crois. Moi, j'ai été interpellé par ce matin quand tu nous as dit est-ce que vous êtes venu en voiture ou. Bon, j'habite à 2 km ici et je me disais, ce qui me gêne par rapport au transport en commun, c'est d'attendre. Parce que si jamais j'avais sur mon téléphone portable un bip me disant, tu as 5 minutes, dans 5 minutes le bus est à l'arrêt devant chez toi et que dans mon bureau j'étais informé que le bus allait partir, là, bon, si je loue, je prends le suivant parce que je serai informé.
Et la préparation du voyage à l'avance, vous connaissez quand même maintenant, c'est. Vous savez, vous prenez 3 minutes.
Non, mais parce que je suis dans des activités où je ne vais pas penser. Il faudrait que je mette mon réveil. Je ne vais pas penser à ça. Il faut qu'on me prévienne. Je n'organise pas mon travail par rapport aux horaires de transport. Absolument pas. Mais par contre, si j'étais prévenu que là, j'ai loupé un truc et que dans une demi-heure, il y en aura un autre, il faut que je sois prévenu.
Ça, c'est des gens. Non, mais ça va dans ce sens. Ouais. Ce que vous faites, ça va dans ce sens.
Moi, je ne veux pas être pré-programmé à l'avance, figé, en me disant il faut que je rentre à telle heure.
Non, c'est pas comme ça. Il faut faire attention sur ce discours que les transports en commun sont au moins flexibles que l'automobile. Les gens sont prêts à passer 3/4 d'heure dans les bouchons avec ce sentiment de flexibilité, je peux aller où je veux, etc. Ils passent exactement le même temps, au moins normalement, dans le transport en commun. Paris-Compiègne, c'est mieux en train qu'en voiture. Et le truc, c'est qu'il y a cette illusion, en fait, de l'automobile. Moi, je pense que si le marketing d'Alstom, un jour, arrive à faire ancrer dans l'esprit des gens le même discours que l'automobile a réussi à faire dans les années 50, 60 sur l'automobile, c'est-à-dire la liberté, la joie, on est heureux, etc. Et si on regarde la SNCF aujourd'hui, la SNCF est l'équipe d'Internet, le TGV Strasbourg.
Première classe uniquement, je crois.
Première classe, et ça marche pas bien. Oui, mais c'est un début. On est en train de faire dans les trains ce qu'on a fait pendant 20 ans, on met du DVD dans les voitures. Vous imaginez du DVD dans la voiture? Ça veut dire qu'en fait, le type conduit, il peut regarder un film. On est en train de transformer l'habitacle voiture
en maison.
Non, mais c'est fou. On arrive à un truc où en fait, les gens vont habiter.
Merci à tous. On se retrouve à 14h.
Mais j'ai fait autre chose.
Oui, j'imagine bien. Donc,
j'ai fait un truc plus universitaire, hein, parce que ça, c'est un peu engagé.
Oui, voilà. Bon, mais je pense que vous avez l'habitude de ce genre de contingence.
De toute façon, c'est ce que j'enseigne, donc oui. ça va pas. Mais c'est vrai que comme j'avais rien de prêt, je me suis dit, bon, ça, déjà, ça fait...
Ça fait une base.